En introduction aux lectures de ce jour et dans ce temps de reconnaissance pour cette fête des mères, cette fête des mamans, j'aimerais vous lire un témoignage d'une néerlandaise, Judith Uiterlinde, je ne sais pas si on prononce comme ça. Voici ce qu'elle écrit. J'avais 23 ans quand j'ai rencontré mon futur mari. Il a su tout de suite qu'il voulait fonder une famille avec moi, mais j'ai mis 5 années avant de réaliser que j'étais prête. Je voulais d'abord profiter de la vie, faire mes études, voyager. Quand nous nous sommes enfin sentis prêts à avoir un enfant, nous avons eu l'impression de franchir une étape. À cette époque, je pensais encore que pour tomber enceinte, il suffisait de ne plus prendre de contraceptif et de faire l'amour passionnément. L'enfant arriverait 9 mois plus tard. Je n'avais pas idée à quel point cela allait être dur. Tout d'abord, j'ai mis 1 an avant de tomber enceinte. Ça a mis du temps. Quand j'ai appris la nouvelle, je me sentais fière, à la fois belle et sexy. Mais après 14 semaines de grossesse, j'ai fait une fausse couche. Et j'ai alors appris que j'attendais des jumeaux. Ce fut un choc énorme. Il m'était impossible de vivre une seconde grossesse immédiatement. Je devais d'abord surpasser ma déception. Ensuite, j'ai eu des difficultés à retomber enceinte. Et j'ai commencé à m'inquiéter. Lors d'une visite chez le médecin, ce dernier nous a demandé, à mon mari et à moi, si nous avions un désir d'enfant. Pour nous, ce terme sonnait comme le nom d'une mauvaise maladie. Jusqu'à présent, nous voulions avoir un bébé. Mais à partir de là, nous nous sommes mis à souffrir à cause de ce désir d'enfant que nous ne pouvions combler. J'ai fini par retomber enceinte, mais j'ai fait une grossesse extra-utérine. Nous avons donc décidé de nous tourner vers la fécondation in vitro. Comme la grossesse extra-utérine avait bloqué l'une de mes trompes, la fécondation in vitro était le moyen le plus logique pour contourner ce problème. Les médecins étaient très confiants et j'ai tout de suite pensé que ça pouvait fonctionner. Je ne voulais pas non plus en abuser. Je me suis promis de faire seulement 3 tentatives, pas une de plus. Je ne voulais surtout pas que ça vire à l'obsession. Et pourtant, à chaque échec, je voulais faire une autre tentative. Je ne pouvais pas abandonner. Je ne pouvais pas croire que j'étais incapable de concevoir un enfant, alors qu'il n'y avait aucune raison qui puisse expliquer pourquoi cela ne marchait pas. Je ne pensais pas être le genre de femme qui voulait désespérément un bébé plus qu'autre chose. J'avais déjà un super job dans une maison d'éducation, des amis géniaux. Au fond de moi, je savais que je pouvais mener une belle vie sans avoir d'enfant. Dans ma jeunesse, je m'étais énormément identifiée à l'une de mes tantes. Célibataire, elle avait un travail très intéressant pour la télévision. Avait connu des histoires d'amour passionnées et adorait boire, fumer et sortir. Sauf que je sentais qu'avoir des enfants serait très important pour ma vie. Et j'avais beaucoup de mal à accepter le fait qu'avoir un bébé à moi serait impossible. Tomber enceinte était devenu un but en soi. J'avais l'impression d'avoir pris un train qui, une fois mis en route, ne peut jamais s'arrêter. J'en étais peut-être arrivée à ce point parce que les médecins n'avaient pas cessé de me rappeler qu'il n'y avait aucun obstacle pour que je tombe enceinte. J'ai commencé à me sentir isolée, malheureuse. Je m'en voulais d'être devenue si obsédée. Je ne me sentais plus comprise par mes amis. Je me suis gentiment éloignée des uns des autres. par une sorte de frustration, de jalousie. Puis, nous nous sommes décidés à adopter un enfant. Les temps ont passé. J'ai bien trouvé quelques livres qui parlaient des considérations médicales que j'avais traversées, mais aucun ne décrivait de l'intérieur tous les sentiments qui peuvent nous assaillir lorsque l'envie d'avoir un enfant commence à gâcher tout le reste. C'est là que cette femme a écrit ce livre intitulé « Chronique d'un désir d'enfant ». Et aujourd'hui, je vous invite à écouter une autre chronique de désir d'enfant. Et c'est Carole qui va nous lire ce récit dans la Bible cette fois-ci.
Il y avait un homme de Ramathaim Sophim, de la montagne d'Ephraïm. Il s'appelait Elkana, fils de Yéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, un Éphrataïen. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et la seconde Pénina. Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Tous les ans, cet homme montait de sa ville pour se prosterner devant le Seigneur, le Tout-Puissant, et pour lui sacrifier à Silo. Il y avait là, comme prêtre du Seigneur, les deux fils d'Élie, Ophni et Pinéas. Vint le jour où Elkana offrait le sacrifice, il avait coutume de donner des parts à sa femme Pénina et à tous les fils et filles de Pénina. Mais à Anne, il donnait une part d'honneur, car c'est Anne qu'il aimait, bien que le Seigneur l'eût rendu stérile. En outre, sa rivale ne cessait de lui faire des affronts pour l'humilier, parce que le Seigneur l'avait rendu stérile. Ainsi agissait Elkana tous les ans, chaque fois qu'elle montait à la maison du Seigneur, ainsi Pénina lui faisait-elle affront. Anne se mit à pleurer et refusa de manger. Son mari Elkana lui dit « Anne, « pourquoi pleures-tu? Pourquoi as-tu le cœur triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du temple du Seigneur. Pleine d'amertume, elle adressa une prière au Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Elle fit le vœu que voici, « Seigneur, Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner à ta servante un garçon, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait en elle-même, seules les lèvres remuaient. On n'entendait pas sa voix. Élie la prit pour une femme ivre. Élie lui dit « Seras-tu longtemps ivre? Va cuver ton vin !» Anne lui répondit « Je ne suis pas, mon Seigneur, une femme entêtée, mais je n'ai bu ni vin ni rien d'enivrant. Je m'épanchais seulement devant le Seigneur. Ne traite pas ta servante comme une fille de rien, car c'est l'excès de mes soucis et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'ici. » Élie lui répondit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » La femme s'en alla, elle mangea, et n'eut plus le même visage. Ils se levèrent de bon matin, et se prosternèrent devant le Seigneur. Puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et le Seigneur se souvint d'elle. Or donc, au jour révolu, Anne, qui était enceinte, enfanta un fils. Elle l'appela Samuel, car, dit-elle, c'est au Seigneur que je l'ai demandé. Le mari Elkana monta avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter de son vœu. Mais Anne ne monta pas, car, dit-elle à son mari, « Attendons que l'enfant soit sevré. Alors je l'emmènerai. Il se présentera devant le Seigneur et il restera là-bas pour toujours. » Son mari Elkana lui dit, « Fais ce que bon te semble. Reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Que seulement le Seigneur accomplisse sa parole. » La femme resta donc et elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Lorsqu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, avec 3 taureaux, une mesure de farine et une outre de vin. Elle le fit entrer dans la maison du Seigneur, à Silo, et l'enfant devint servant. Ils immolèrent le taureau et amenèrent l'enfant à Élie. Elle dit, « Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait près de toi ici même et adressait une prière au Seigneur. Voici l'enfant que je demandais dans ma prière. Le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur. Pour toute sa vie, il appartiendra au Seigneur. » Sa mère lui faisait un petit manteau, elle le lui montait chaque année, quand elle montait avec son mari offrir le sacrifice annuel. Élie bénissait Elkana et sa femme, il disait « Que le Seigneur t'accorde une descendance de cette femme en échange de celui qui fut donné au Seigneur. » Et il regagnait le domicile d'Elkana. Comme le Seigneur était intervenu en faveur d'Anne, elle devint enceinte et enfanta 3 fils et 2 filles, tandis que le petit Samuel grandissait devant le Seigneur. Matthieu 19. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le déclare, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, pères, mères, enfants ou champs à cause de mon nom, recevra beaucoup plus en partage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers premiers. »
Voici la chronique du désir d'enfant chez cette jeune femme, Anne. Nous ne savons pas si elle est si jeune que cela, puisqu'elle a dû attendre. Et dû attendre pour avoir des enfants, pour avoir cette joie. Et aujourd'hui, en cette fête des mamans, eh bien, nous sommes bien sûr de tout cœur en pensée avec les personnes qui n'ont peut-être pas pu avoir d'enfants aussi facilement que d'autres et qui ont peut-être souffert de ce manque d'enfants, de ce manque de satisfaction du désir d'enfant.
Bonjour madame, entrez seulement.
Merci. Je suis en retard.
Nous parlions donc de cette chronique de désir d'enfant, de cette souffrance que beaucoup de jeunes couples vivent actuellement. Vous savez peut-être que chez les jeunes générations, ce sont là des souffrances qui sont encore plus présentes qu'auparavant. Les causes sont multiples probablement, mais toujours est-il que cette souffrance, je m'excuse, je ne vous vois pas bien, alors je déplace le bouquet pour vous voir. Cette souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfant est une grande souffrance. Et comme le décrivait très bien cet auteur dont je vous ai lu un extrait, cette souffrance peut devenir centrale. Elle peut devenir obsessionnelle, peu à peu, prendre toute la place et nous empêcher de vivre, nous empêcher de savourer la vie. Et c'est ce qui est arrivé à Anne. En plus, à l'époque, elles étaient deux épouses avec les risques de jalousie qu'on peut imaginer. Et puis là, le décalage entre l'une des deux épouses qui peut avoir un enfant, l'autre qui ne peut pas en avoir, ce décalage est d'autant plus souffrant. À une époque, en plus, où le fait d'avoir un enfant, c'était vraiment son identité, sa survivance, j'ai envie de dire. On survivait grâce à ses enfants. Et le fait de ne pas en avoir était un très gros problème. Mais c'est un gros problème de notre temps, bien sûr aussi. Nous allons voter prochainement sur la question du diagnostic préimplantatoire, qui est une manière de soutenir les couples qui sont dans cette quête, dans cette recherche, dans cette souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Nous sommes donc en pleine actualité. Anne, à cette époque, n'avait bien sûr pas l'aide de la médecine, mais elle avait sa foi. Elle avait la prière, et nous voyons que sa prière a été exaucée. Elle va appeler son enfant Samuel. Samuel qui veut dire Dieu écoute, parce qu'elle s'est sentie écoutée par Dieu dans son besoin, dans cette prière. Elle n'a pas eu l'impression de parler au mur ou de parler juste au prêtre, qui d'ailleurs ne l'a pas comprise, qui a imaginé qu'elle était ivre, parce qu'il se rendait bien compte qu'elle avait un comportement étrange, bizarre. Mais au lieu de réaliser qu'elle passait par une très grande souffrance, ce prêtre a imaginé qu'elle était ivre. Donc, elle n'a pas vraiment été comprise par ce prêtre. Par contre, Dieu, lui, l'a comprise. Il a entendu sa souffrance et l'a exaucée. Elle a eu un fils. Et vous savez, cette femme, je l'admire beaucoup personnellement, parce que j'imagine que si j'avais, moi, dû passer par toute cette souffrance qu'elle a vécue, je me serais peut-être cramponnée à cet enfant pour le garder pour moi, rien que pour moi. Et à l'inverse, elle a désiré l'offrir, le donner à Dieu. Elle a donc passé par un lâcher-prise. Le lâcher-prise, toute maman, tout papa doit un jour ou l'autre passer par des lâcher-prise. Anne l'a fait très tôt. Très tôt, elle a eu le désir d'offrir son enfant pour qu'ils servent le Seigneur. Elle a dit, le Seigneur me l'a donné, à mon tour je veux le donner au Seigneur pour toute sa vie, il appartiendra au Seigneur. Elle s'est ainsi privée de la joie d'avoir cet enfant auprès d'elle. Chaque année, elle et son mari allaient le trouver, lui apportaient de beaux habits, avaient de la joie à le retrouver. Mais voilà, elle avait consacré son enfant au Seigneur. Alors, je ne sais pas comment vous vivez votre identité de père, de mère, ceux d'entre vous qui avaient eu cette joie, ce privilège, les avons-nous consacrés au Seigneur? Les avons-nous donnés au Seigneur? Pour qu'ils puissent servir le Seigneur tous les jours de leur vie. Bien sûr, ce choix ne nous appartient pas, c'est leur choix de décider de ce qu'ils vont faire, de leur existence. Mais nous, en tant que parents, à tout âge, nous pouvons les encourager. Leur rappeler que Dieu les appelle, que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui soient prêts à le servir dans ce monde. Et pour cela, ils ont besoin de soigner leur relation avec Dieu, de s'engager véritablement dans leur vie de foi. Est-ce que nous osons les interpeller sur ces questions, les encourager? Parce que si on leur fait la morale, je ne sais pas comment vous réagissez quand on vous fait la morale, mais en général, ça ne nous encourage pas vraiment d'aller dans cette direction-là. Mais une interpellation bienveillante peut être un stimulus qui va peut-être leur permettre de se poser de bonnes questions, s'interroger. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je sers le Seigneur ou est-ce que je ne sers que mes propres intérêts? Est-ce que je suis là pour Dieu, pour que le règne de Dieu avance en ce monde? Oui, ce sont là des questions que nous pouvons aborder avec nos enfants pour que, comme Anne l'a fait, eh bien, nous ayons la joie d'avoir peut-être pas tous nos enfants, mais au moins l'un ou l'autre d'entre eux qui s'engage à servir le Seigneur. Car dans ce temple, il y a le contraste entre Samuel qui écoute le Seigneur, que le Seigneur va appeler, auquel il va parler de manière très précise, et puis les fils d'Élie, le prêtre. Ses fils, eh bien, ils lui font honte. Ils viennent puiser dans les sacrifices que les gens apportaient. Vous savez, on découpait des animaux, on les faisait cuire, et les fils d'Élie prenaient une grosse fourchette et venaient se servir. Ils violaient des femmes à l'entrée du temple. Enfin, ils avaient un comportement qui faisait honte à Élie et surtout qui attristait Dieu, car Dieu avait mis à part cette tribu pour le servir dans le temple. Et les descendants d'Élie vont être peu à peu mis à part, mis de côté, je veux dire, ne pouvant plus servir dans le temple de cette manière-là. Nous avons donc ce contraste entre les fils d'Élie qui agissent mal et puis Samuel qui, dès son enfance, est consacré à Dieu et qui va le servir et servir ainsi tout son peuple. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, que aujourd'hui, en cette fête des mamans, nous puissions encourager les enfants que nous avons, nous en tant que maman ou en tant que papa, que nous puissions les encourager à être à leur tour serviteurs du Dieu Très-Haut. Amen.